Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes de te voir un jour face à face, Seigneur de gloire. C'est là notre prière, c'est là notre souhait, Seigneur. L'apôtre Paul a dit, Seigneur de gloire, que les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir. Seigneur, c'est pourquoi nous prions ce matin encore afin que tu nous aides, Seigneur Dieu de gloire, à recevoir, à accepter, Seigneur de gloire, les souffrances du temps présent, Seigneur, sans murmurer, sans nous détourner de toi, Seigneur, en gardant l'espérance éternelle, Dieu, que la souffrance finira un jour, Seigneur. Nous sommes témoins, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur, ce monde incertain, ce monde sans espoir, mais voici, tu nous donnes une garantie, Seigneur de gloire, celle de venir nous chercher un jour. C'est pourquoi nous nous attendons à toi, c'est pourquoi nous comptons sur toi, Seigneur. Seigneur, merci encore au travers de ta parole de faire de nous tes disciples, de nous fortifier, Seigneur de gloire, dans la foi, de nous corriger, Seigneur Dieu de gloire, de nous instruire, Seigneur, de nous sonder, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous demeurions dans tes voies. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi nous venons devant toi, Seigneur, encore, avec humilité, Seigneur, car nous avons besoin de ton secours. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et ensuite, nous irons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous allons au chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Au verset 26, nous allons lire au partir du verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Amen. Dans Matthieu chapitre 7, on nous explique que ce ne sont pas forcément ceux qui se disent chrétiens qui iront au ciel, qui rencontreront le Seigneur. Encore plus loin, ce n'est pas forcément ceux-mêmes qui ont publiquement servi le Seigneur d'une certaine manière qui hériteront aussi du royaume de Dieu. Et le Seigneur dit que beaucoup diront, « Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous t'avons servi, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles par ton nom. » Et le Seigneur dit, « Je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, c'est-à-dire ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Dans le deuxième passage, on nous montre clairement que nous pouvons sauver notre vie, c'est-à-dire être des gens vivants, être des gens qui semblent heureux sur la terre des vivants, des gens qui peuvent posséder beaucoup de biens, qui peuvent être riches, des gens qui peuvent être réputés, qui peuvent être aimés de tout le monde, physiquement parlant, de façon charnelle. On peut être apprécié des gens. Et le Seigneur nous dit, mais même si tu gagnais tout ce monde-là à ta cause, même si tout le monde élevait ton nom, Même si tout le monde te considérait comme un homme juste, à quoi ça servirait de gagner le monde si derrière tu finis en enfer? Ça ne servirait à rien. Nous voyons dans ces deux cas, et ce qui fait l'objet de notre partage ce matin, c'est qu'il y a des choses essentielles dans la vie chrétienne. Nous pouvons nous atteler à servir le Seigneur, à nous consacrer à son œuvre, à prêcher la parole de Dieu, mais la garantie d'hériter du royaume de Dieu ne se trouve pas forcément dans le service. Ce n'est pas parce que tu aurais contribué à bâtir des églises, tu aurais contribué par ta prédication à sauver des âmes, que cela fait de toi de quelqu'un d'irréprochable devant le Seigneur. Le Seigneur est clair, il dit que ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Autrement dit, comme le Seigneur a manifesté la volonté de son Père, il a fait et accompli toutes les garanties que son Père lui demandait, c'est en réalité ceux qui marchent comme Jésus qui entreront dans le royaume des dieux. Ce sont ceux qui ressemblent au Seigneur qui entreront au paradis et non pas ceux simplement qui auront confessé le nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, à quoi ça servirait de passer notre temps à vivre une vie chrétienne si à la fin nous finissons en enfer? L'essentiel nous ramène à comprendre que les attentes de Dieu ne sont pas véritablement ou totalement dans le service. Le service de Dieu est quelque chose qui est une conséquence logique de celui qui est né de nouveau. C'est-à-dire que nous sommes serviteurs de Dieu dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vit en nous, selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en nous et de là nous sommes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, habitée par le Saint-Esprit, aura la soif logique de vivre comme Jésus et d'accomplir les œuvres préparées par Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devons nous battre ou nous tracasser, mais c'est quelque chose qui doit être naturel dans notre vie. Servir Jésus, servir Dieu et vivre comme le Seigneur, c'est quelque chose qui normalement est en nous. Et c'est ça qui est l'essentiel. La prédication, le faire les miracles, chasser les démons, n'est qu'une conséquence logique de la vie de Jésus-Christ en nous. Ce qui veut nous dire, bien aimé, que le principal, c'est ce qui est à la base. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est à la base. Vous pouvez aujourd'hui vouloir construire une maison. Mais si dans ton esprit, tu as déjà le souci d'arriver à la toiture, alors que les fondements n'ont pas été posés, ta toiture, tu ne la poseras jamais. Les murs, tu ne les monteras jamais. Il faut d'abord que les fondements soient posés. Et lorsque les fondements, qui est la base de la construction, peuvent maintenant accueillir tout ce qui est solide, on peut maintenant commencer à monter les murs et penser après à la toiture. Et de la même manière, bien aimé, nous ne pouvons pas commencer à penser à la prédication, penser à chasser les démons, penser à faire des miracles, alors que le fondement Jésus-Christ en nous n'est pas établi. Donc nous devons revenir d'abord au fondement qui est la nature de Jésus-Christ manifestée en nous. Jésus-Christ doit être le point d'ancrage, doit être le fondement de notre vie. Après, tout le reste viendra. Et la prédication, et les miracles, et le service de Dieu, toutes ces choses viendront une fois seulement que la base aura été posée, que la base aura été solidement posée, c'est-à-dire Jésus-Christ seul. Et ce matin, je voudrais nous rappeler et nous ramener à ce qui est essentiel. Tu peux être apprécié de tous les hommes, dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, tu peux avoir une bonne réputation. Mais si toutes ces choses-là sont là, mais que finalement Jésus-Christ n'est pas perçu en toi, tu es dans le cas de figure, le Seigneur dit, à quoi ça sert de gagner le monde si toi-même tu perds ta vie? Tu peux être apprécié de tout le monde, mais si la vie de Jésus-Christ ne se trouve pas en toi, alors toute ta réputation, ton argent, tout ce que les gens disent de bien sur toi ne serviront à rien du tout. Tu peux prêcher la parole de Dieu devant 5000 personnes, 10000 personnes. Dieu peut t'utiliser pour faire des miracles. Dieu peut t'utiliser pour prêcher sa parole, pour évangéliser des personnes. Gloire à son nom. Mais si après tout ce travail-là, la nature de Jésus-Christ n'est pas reflétée en toi, alors tout cela ne sert à rien. Et le Seigneur dit, beaucoup diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons. Mais le Seigneur dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alors bien-aimés, avant d'avoir des pensées élevées, avant d'avoir même des désirs légitimes de vouloir servir Dieu, que le Seigneur d'abord règne en nous. Que la nature de Jésus-Christ soit d'abord manifestée en nous. Que nous prenons Jésus-Christ d'abord comme témoin, comme exemple. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ce n'est pas que l'apôtre Paul voulait s'élever ou se glorifier, parce que ce n'était pas lui qui était le modèle parfait. Le modèle parfait était Jésus. Donc c'est une manière de dire, puisque Jésus-Christ, vous ne le voyez pas, puisque Jésus-Christ n'est pas là, mais au travers moi, vous allez le voir. Ce n'est pas qu'il voulait s'élever lui, c'est que par lui, il voulait emmener les gens à Christ. Ce qui montre que c'est Jésus-Christ qui est l'élément principal, qui est le fondement de toutes choses, et que c'est à partir de ce modèle-là que nous devons vivre notre vie chrétienne et marcher dans notre vie chrétienne afin d'être véritablement agréable à Dieu. Il n'y a aucun homme sur terre, la Bible dit, qui fasse le bien. Pas même un seul juste. Charnellement, il n'y a personne qui puisse être agréable à Dieu. Avec tous les efforts que nous pouvons faire, avec toute notre intelligence, tu peux donner tous les dons de la terre dans le panier des offrandes. Tu peux livrer tout ton salaire. Mais si tu n'es pas à l'exemple de Jésus, sache bien aimé que Dieu ne prend aucun plaisir à toi. Il ne prend aucun plaisir à te voir vivre. Parce que le seul qui a pu réjouir et toucher le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ. À part le Seigneur, il n'y a personne qui a pu satisfaire aux exigences de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli. C'est lui qui est le modèle parfait. Mais maintenant, ce Jésus-là est venu vivre en nous de façon à ce que lorsque nous nous laissons notre chair mourir et l'Esprit de Dieu vivre en nous, le regard que le Seigneur a désormais sur nous, ce n'est pas comme des hommes charnels, comme des païens, comme des gens sans Dieu, mais il voit tout simplement la nature de son Fils qui est manifestée. Et c'est de cette manière-là que nous sommes agréables à Dieu. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur veut nous voir le servir. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas dans la religiosité. Le Seigneur n'est pas dans les habitudes. Il n'a pas un regard selon les hommes qui vont te qualifier de bon parce qu'on t'a vu donner l'aumône, qui vont te qualifier de bon parce que tu aides la mamie du coin à porter ses courses. Le Seigneur voit beaucoup plus loin que ça. Lorsqu'il voit cette attitude-là, mais il voit l'absence de la nature de son Fils, alors bien-aimé, ce sont des œuvres inutiles que nous sommes en train de faire. Dieu ne se glorifiera pas dans ça. Avant de voir loin, avant de désirer posséder, avant de désirer mon ministère, je veux faire des miracles, il faut que les démons soient chassés, il faut que les aveugles voient. Le Seigneur dit d'abord, moi je dois d'abord voir mon Fils en toi. C'est ça la base de toute chose, bien-aimé. La base de la vie chrétienne, c'est le règne de Jésus-Christ en nous. Alors ce matin, je vais nous rappeler à imiter tout simplement le Seigneur dans ce qu'il nous a démontré, dans ce qu'il a manifesté. C'est de cette manière-là que nous allons être agréables à Dieu. Et tout le reste, c'est Dieu qui s'en occupera. Nous n'avons pas la capacité de chasser des démons, humainement. Nous n'avons pas la capacité de faire des miracles. Nous n'avons pas la capacité de prêcher et que les gens comprennent. Toutes ces capacités-là ne se trouvent qu'en Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus qui produit cela en nous. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Jean 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Tout ce que nous produisons n'est que le fruit de la présence du Seigneur en nous. Nous sommes des instruments inutiles que le Seigneur utilise uniquement par amour. Le Seigneur a fait de nous des ouvriers avec lui dans la moisson uniquement par amour. Aucun d'entre nous ne méritait une grâce particulière parce que nous tous, nous étions loin de Dieu dans le péché et nous étions sur la voie qui mène en enfer. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a eu pitié de nous. Et il nous associe à son service afin qu'ensemble nous nous réjouissons et que nous partageons sa gloire dans les siècles à venir. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, au verset 14, il est écrit, après que le Seigneur eut à vivre l'épreuve de la tentation par le diable dans le désert, nous arrivons au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Le premier exemple, c'est de vivre comme Jésus-Christ par rapport à la mission pour laquelle il était venu. Nous voyons aujourd'hui tellement de copier-coller, de copier-coller, de copier-coller à partir d'autres copier-coller que quelquefois on a du mal à discerner quelle est véritablement l'œuvre que le Seigneur veut faire dans l'humanité. L'exemple que nous voyons dans beaucoup d'assemblées, l'exemple que nous voyons à travers beaucoup de serviteurs n'est pas l'exemple que le Seigneur a donné pour l'œuvre qu'il a prévue pour ses disciples. Le Seigneur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et donc le service dans lequel le Seigneur nous appelle, la mission dans laquelle le Seigneur nous appelle, ne peut pas être différente de la mission que le Seigneur lui-même a commencée. On entend aujourd'hui toutes sortes de ministères. Ministères de, comment on appelle ça, relations d'aide. Donc je ne sais pas, donc l'homme invente des noms, qui met ça dans l'église pour justifier que ça vient du Seigneur. Pourquoi ne pas rester simplement dans ce qui est biblique? Pourquoi ne pas faire le copier-coller à partir de la Bible? Pourquoi vouloir créer son propre évangile, créer son propre système pour en quelque sorte exister d'une manière différente des autres hommes? Si aujourd'hui, même dans le mouvement chrétien, on nous parle de différentes sortes de congrégations, on va nous parler de protestants, on va nous parler de luthériens, on va nous parler des calvinistes, tout cela se revendique être chrétien. Mais chacun veut ajouter sa petite sauce pour être différent de ce qui existe déjà. On veut faire quelque chose de différent pour sortir la tête au-dessus des autres ou sortir la tête d'une manière particulière. Il y a certains qui vont inventer des doctrines vont être à la mode. Donc vous allez voir un temps où on parle le sang de Jésus, le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus est mêlé à tout. Donc tout on mélange dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Il y a des moments donnés où ça va être l'évangile du royaume, l'évangile du royaume, l'évangile du royaume. Ça passe comme une mode comme ça et pour être différent des autres. Mais le Seigneur est venu avec un témoignage. Il est venu avec une mission. Et ceux qui se disent enfants de Dieu, qui se disent serviteurs de Christ, ne peuvent pas inventer et créer un autre ministère que celui du Seigneur. Et dans ce passage-là, le Seigneur expose clairement la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour libérer les captifs, pour donner la vue aux aveugles. Ceux qui sont emprisonnés, qui sont retenus par les chaînes, l'esclavage du tabac, l'esclavage de l'orgueil. Le Seigneur est venu apporter une solution. Donc le rôle du disciple de Jésus, c'est de continuer cette mission et de rappeler aux gens qui peuvent, il y a une solution pour ne plus être esclave de quoi que ce soit. Nous devons nous inscrire dans la même mission que le Seigneur a annoncée. Et bon, mais c'est une bonne chose. Et pour nous, c'est un repère devant toutes les faussetés qui sont sous nos yeux. Dans ce monde aujourd'hui, la Bible doit être pour nous un repère qui va nous permettre de sonder et de juger qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent disciples de Jésus. Mais leur but, c'est quoi? C'est de remplir les caisses du compte en banque ou les caisses de l'église. Le Seigneur ne dit pas qu'il est venu pour faire de l'argent. Il ne dit pas qu'il est venu pour construire des entreprises, pour faire du bénéfice. Il est venu pour les pauvres. Mais il y a d'autres qui dépouillent encore les pauvres en leur faisant croire que s'il veut être guéri, il faut qu'il donne tant dans les offrandes. En leur faisant croire que s'il veut être guéri, il faut faire tel sacrifice particulier. Et les gens entrent dans ce système-là en espérant recevoir quelque chose de Dieu dans des systèmes dans lesquels le Seigneur n'a jamais fonctionné. Il est venu donner la vie, la donner en abondance, mais surtout il est venu donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est ça la parole du Seigneur. Et dans ce passage-là, le Seigneur expose clairement. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nous étions pécheurs. La bonne nouvelle, c'est que nous étions perdus, voués à la destruction, tout droit dans l'autoroute qui mène en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu régulariser la situation. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, de façon à ce que la condamnation qui était sur nous, eh bien, soit nulle et sans effet à cause du sacrifice qu'il allait accomplir. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui font croire que non, tu es dans le péché. Mais pour ton péché, si tu fais telle offrande, si tu donnes tant d'argent, on pourra t'effacer ton péché. Si tu payes tant, on pourra t'effacer ton péché. Donc on emmène les gens dans les œuvres. Mais la réalité des œuvres, ce n'est pas la bonne nouvelle. On ne peut pas travailler d'une manière différente que celle que le Seigneur est venu nous montrer, qu'il est venu démontrer par sa manière de vivre. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes rachetés gratuitement à cause du sang de l'agneau. Et c'est ça, bien-aimés, que nous devons répondre aux gens. C'est ça que nous devons annoncer aux gens, de leur dire que certainement tu te sens condamné, certainement que tu te sens loin de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a payé à ta place. Il a payé à ta place. Alors tu n'es plus obligé d'être esclave de la chair, d'être esclave de ce monde, d'être esclave de la vie. Il y a une solution. Et c'est ça qui est une bonne nouvelle, bien-aimé. C'est que nous ne sommes plus condamnés. Pour envoyer, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Derrière ce passage-là, ça doit nous ramener, bien-aimés, que la réalité du monde, ce n'est pas celle que le monde nous montre. La réalité, ce n'est pas ce qu'on voit, où on a l'impression que ceux qui sont riches, ceux qui sont élevés, semblent être heureux, semblent ne manquer de rien et être en paix dans leur vie. Ce passage-là nous annonce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé. Ce passage-là nous annonce qu'il y a des gens qui sont aveugles. Ils pensent voir, ils pensent être sur la bonne voie, mais en réalité, ils sont totalement égarés. Ce passage-là nous annonce qu'il y a des gens qui sont captifs, captifs de leur raisonnement, captifs quelquefois de la religion, captifs d'un système. Et l'apparence telle que nous le voyons, le monde, ne reflète pas la réalité que le Seigneur dévoile dans ce passage-là. Et c'est pour cela que le Seigneur était venu. Donc nous aussi, nous devons être conscients qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé, qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui sont aveugles, qui pensent être sur la bonne voie, mais qui en réalité sont loin de Dieu. La conviction que tu as toi ce matin, que Jésus-Christ est Seigneur, la conviction que tu as d'être sur la bonne voie et que le Seigneur reviendra, la conviction que tu as que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité, cette conviction-là que tu sens dans ton cœur, avec la certitude que personne ne peut te l'enlever. Sache que ceux qui sont dans le catholicisme ont cette même certitude. Ceux qui sont dans l'islam ont cette même certitude. Ceux qui sont dans le bouddhisme ont cette même certitude. Ils sont attachés, Dieu comme fer, à ce qu'ils croient. Mais le Seigneur est venu, il dit « L'Esprit Saint m'a oint ». Et c'est ça la grande différence qu'il existe entre tous ceux qui disent être de Dieu et qui ne le sont pas. C'est qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Et le Seigneur dit « L'Esprit Saint m'a oint ». Donc j'ai reçu cette mission-là, j'ai reçu l'onction, la puissance nécessaire pour venir accomplir cette mission. Et c'est la raison pour laquelle, avant que le Seigneur ait dit aux disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il dit d'abord, « Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, je vous envoie. J'ai reçu toute l'autorité, et cette autorité-là, je vous la donne. Allez maintenant par tout le monde. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'était ça la mission du Seigneur. Alors, bien-aimés, arrêtons de nous tromper en regardant ce qui se passe à gauche et à droite. Mais regardons d'abord à ce qui se passe dans le Seigneur. C'est ça le fondement de toute chose. Imitons le Seigneur dans sa globalité, dans la mission qu'il est venu accomplir. Voilà l'exemple parfait du Seigneur. Et à partir de là, jugeons-nous, sondons-nous. Est-ce que le travail que je fais pour le Seigneur, est-ce que la motivation que j'ai à servir Dieu est conforme à la mission que le Seigneur est venu commencer? Est-ce que j'ai le souci des pauvres? Est-ce que j'ai la volonté d'ouvrir la vue à tous ceux qui sont aveugles, à ceux qui pensent être dans la vérité, mais qui en réalité sont si loin de Dieu? Est-ce que j'ai moi-même compris et adhéré, accepté à la bonne nouvelle? Est-ce que la bonne nouvelle que je prêche aux autres, est-ce qu'elle est d'abord une bonne nouvelle pour moi? Et ça, c'est notre vie qui le détermine. Est-ce que tu crois vraiment que tu es libéré? Est-ce que tu es dans la captivité? C'est ça la réalité. Jésus-Christ est venu faire la mission, mais cette mission, en réalité, était en lui. Ça faisait partie de sa vie. Il ne vivait que pour ça. Alors, il est évident, bien-aimé, qu'il nous sera difficile de vivre et d'imiter le Seigneur dans sa mission si nous-mêmes, nous n'avons pas reçu, compris et si nous-mêmes, nous ne profitons pas de la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle que le Seigneur est venu annoncer, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Est-ce que lorsque tu es dans l'épreuve, tu te rappelles qu'il y a une bonne nouvelle? Est-ce que lorsque tu te sens condamné par le poids de ton péché, tu te souviens qu'il y a une bonne nouvelle? Ou est-ce que tu sombres toi aussi? Est-ce que tu pleures toi aussi? Dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans la mission telle que le Seigneur l'a voulu. Nous ne sommes plus imitateurs du Seigneur dans l'œuvre qu'il est venu accomplir. Le Seigneur est venu accomplir une mission et nous devons l'imiter de cette manière-là. Nous prenons Jean chapitre 12. Jean 12, au verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Le Seigneur Dieu a créé l'homme avec une liberté. Il a créé l'homme en lui laissant sa propre volonté. Le Seigneur dit, personne ne me prend la vie, personne ne me ôte la vie, mais c'est moi qui la donne. Donc c'est volontairement que le Seigneur a accepté de livrer sa vie. C'est volontairement qu'il a accepté la mission que le Père lui avait donnée. Et il avait l'autorité de tout arrêter. Il avait l'autorité de renoncer, c'est-à-dire il était dans son droit. De la même manière que tel que nous vivons, le Seigneur ne s'est imposé dans la vie de personne. C'est librement que nous sommes venus là ce matin pour entendre la parole de Dieu. Nous avons décidé, parce que nous avons fait un choix. Et le Seigneur, dans sa volonté, dans sa souveraineté, en tant qu'homme, mais aussi en tant que Dieu, il va dire, voilà que mon âme est troublée. Donc, le temps pour accomplir l'œuvre approche. Et je suis troublé. Qu'est-ce que je vais faire? Je renonce maintenant. Mais il se souvient que non, il est venu pour ça. Il avait répondu à l'appel pour venir accomplir le sacrifice. Et là, je nous interpelle sur la notion, sur la question de l'obéissance. Imiter le Seigneur dans son obéissance. Il avait des droits. Il avait une autorité. Mais il a accepté qu'au-dessus de lui, il y ait une autre autorité. Et il a obéi, sans chercher à discuter, sans chercher à contester. Pour nous, bien-aimés, l'obéissance ne nécessite pas qu'il faut tout comprendre. Lorsque un enfant de 2 ans, 3 ans joue avec un couteau et que tu lui arraches le couteau pour ne pas qu'il se blesse, il va pleurer parce que pour lui, c'est comme si tu lui as enlevé un jouet. Il ne calcule pas, il n'évalue pas la gravité de l'acte qu'il est en train de faire. Il n'évalue pas le danger dans lequel il se trouve. Pour lui, tu l'embêtes. Mais tu demandes, toi, en tant que parent, qu'il obéisse. Même si il ne comprend pas tout totalement, il comprendra après, mais pour l'instant, il doit obéir. Donc, l'obéissance ne nécessite pas de tout comprendre. L'obéissance, nous le faisons parce que c'est écrit. Nous le faisons parce que Dieu a dit. Nous le faisons parce que nous avons confiance que les choses sont ainsi. Et le Seigneur, qui était dans l'autorité de renoncer et d'arrêter la mission à tout moment, il a obéi à l'ordre parce qu'il avait répondu oui. Me voici, envoie-moi. Il avait répondu oui, alors il a obéi. Seigneur, mon âme est troublée. Il y a des moments où c'est difficile. L'épreuve est difficile, où la vie chrétienne quelquefois semble difficile. Et tu as ta chair qui veut te pousser à réagir, à aller à l'encontre de l'évangile. Mais de l'autre côté, tu as le Saint-Esprit en toi qui te montre et qui te rappelle ce qui est bien, selon le Seigneur. Mais entre les deux, il y a ta volonté. Et cette volonté-là se manifeste favorablement pour l'œuvre de Dieu lorsqu'on décide tout simplement d'obéir. Le Seigneur a été obéissant. Il a accompli l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. On ne peut pas, bien aimé, servir le Seigneur si nous ne sommes pas obéissants. L'obéissance, c'est vrai, c'est accepter et faire ce qu'on nous demande de faire. Mais bien plus que ça, l'obéissance est le témoignage aussi de la foi que nous avons mise dans le Seigneur. On obéit parce qu'on a confiance en Dieu. On obéit parce qu'on sait que le Seigneur a raison. On sait que le Seigneur ne se trompe pas. C'est la raison pour laquelle nous obéissons. Parce qu'on a réalisé, on a compris que notre vie ne nous appartient plus. Et que désormais, si nous vivons, nous vivons uniquement pour le Seigneur et pour accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a envoyés. C'est ce que le Seigneur a accompli. Il pouvait tout arrêter, mais il s'est souvenu que non, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Je vais obéir et aller jusqu'au bout de l'œuvre, jusqu'au bout de la mission. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que nous devons imiter le Seigneur. Comme je l'ai dit, on peut vouloir ressusciter les morts, voir les aveugles voir, prêcher devant une foule et voir les gens se convertir. Ce n'est pas mauvais, mais tout cela deviendra inutile si nous ne sommes pas obéissants. Dieu a utilisé Saül. Il a fait des guerres. Le peuple d'Israël a remporté des guerres. Il a remporté des guerres avec, par la puissance de Dieu. Mais Saül, qui était désobéissant, il a fini comment? Il a fini comment? Dieu l'a tout simplement rejeté parce qu'il a désobéi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux tout accomplir, tu peux donner tout en or, tu peux donner tous les jours des offrandes au Seigneur. Mais si tu n'obéis pas, alors comme le Seigneur a dit, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre sa vie? L'essentiel est de voir l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Et la nature de Jésus-Christ en nous se manifeste, se montre aussi par l'obéissance. L'obéissance est le signe aussi de notre maturité en tant que chrétien. Dans Jean 3, 8, il est écrit que le vent souffle où il veut. On en entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. De la façon dont le vent souffle, dont le Saint-Esprit emmène celui qui a donné sa vie au Seigneur. Il souffle à gauche, tu vas à gauche. Il souffle à droite, tu vas à droite. Et la Bible nous dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc nous voyons quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur par l'obéissance. C'est-à-dire qu'il ne conteste pas le mouvement de Dieu. Il ne conteste pas le mouvement du Saint-Esprit. Là où le Seigneur l'envoie, il va. Dieu l'envoie à gauche, même si ça le déplaît, même si c'est difficile, il suit. Dieu l'envoie à droite, même si c'est difficile, même si sa chair souffre, il obéit. C'est de cette manière-là que la nature de Dieu est manifestée. Et de très loin, bien-aimé, c'est ce qui est essentiel. Le fondement de la vie chrétienne, du service avec Dieu, c'est d'abord l'identité de Jésus-Christ en nous. Il faut que Jésus-Christ soit identifié en nous et Jésus-Christ s'identifie aussi par l'obéissance qu'il a manifestée. Alors imitons le Seigneur par l'obéissance qu'il a manifestée, tel qu'il a été obéissant vis-à-vis de Dieu. Nous aussi, soyons obéissants de cette manière-là. L'obéissance, c'est un choix. Quand on dit d'obéir, bien-aimé, ça ne veut pas forcément dire que tout va être simple. Ça n'a pas été simple pour Abraham de marcher et d'amener son fils pour aller le sacrifier. Il ne devait pas aller en chantant. Il ne devait pas aller en sautant avec des fleurs dans la main ou bien, je ne sais pas, avec le sourire. C'était difficile. Mais il voulait tout simplement obéir à l'œuvre de Dieu. Il voulait obéir à l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé parmi les hommes. Et on l'appelait le père de la foi. Abraham a reçu un titre exceptionnel parmi les hommes parce qu'il a accepté d'obéir au Seigneur et de faire confiance. Dès le premier appel de Dieu, lorsque Dieu lui a dit « Sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai », il ne savait pas exactement où il allait, mais il a tout simplement obéi à la voix de Dieu. Et les conséquences de cette obéissance-là, c'est nous qui en bénéficions aujourd'hui, c'est nous qui en profitons aujourd'hui parce que Abraham a accepté d'obéir à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est soumis à son Père en obéissant. Nous prenons Ésaïe 53. L'évangile que nous entendons aujourd'hui, régulièrement, quand je dis ce que nous entendons, c'est ce que nous entendons, je dirais, le plus souvent. Malheureusement, mais c'est aussi biblique. Il y a toujours eu une minorité de vrais serviteurs et un grand nombre de faux serviteurs, des mercenaires et des serviteurs du ventre, c'est-à-dire ceux qui se servent eux-mêmes en réalité. Ils ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils veulent que le nom de Dieu soit élevé. Ils prêchent l'évangile parce que quelque part ça fait leur propre gloire. Ils attirent des foules et ils égarent les personnes loin du Seigneur. Et devant tout ce qui brille, de grandes assemblées, la façon de prêcher, la façon de s'habiller, la façon dont ils roulent dans des voitures, qui marchent avec des gardes du corps, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir serviteurs de Dieu simplement à cause de cette image qui est donnée. Et c'est pourquoi il y a certains pays, notamment en Afrique, lorsque tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, ils te disent soit pasteur, soit ministre. Parce que c'est ce qui élève et c'est ce qui fait vivre. Et c'est une réalité. Les gens ne veulent plus servir Dieu selon le modèle de Jésus, mais ils veulent servir le Seigneur selon le modèle apparent qu'ils voient à la télé, qu'ils voient sur Internet. Mais ce modèle-là, ce n'est pas le modèle que Jésus nous a laissé. Alors si nous voulons nous identifier dans le Seigneur, parce que c'est vrai que le Seigneur a dit qu'on chassera, on va chasser les démons en son nom. C'est une réalité. Il a dit qu'on fera les mêmes œuvres que lui et on en fera de plus grandes parce que lui s'en allait. C'est aussi une réalité. On s'identifie au Seigneur à travers la gloire qu'il a manifestée, les miracles qu'il a faits. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas que ça. Jésus-Christ, ce n'est pas que les miracles. Et combien même il avait fait des miracles, ces miracles-là avaient un objectif. Il n'a jamais fait ça pour amuser la galerie. À tel point que lorsque les gens s'amusaient, on dit « Mais fais-nous encore un miracle et puis on croira. » Il a dit « Non, je ne ferai plus de miracles. » Le dernier miracle que vous verrez, c'est le miracle de Jonas. Il avait compris que c'était devenu un jeu pour des gens. Il voulait simplement être amusé. Amusé et voir, être épaté par les choses extraordinaires qu'il voyait. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens instables qui sont de gauche à droite. Là où il semble que le serviteur est plus fort, qu'il a plus d'onction, il va d'église en église. Il apprend que là-bas, ah, on a guéri un aveugle. Il court. Il apprend là-bas, on a guéri trois. Il va là-bas. Ah, là-bas, on a guéri cinq. Il va là-bas. Donc son souci, ce n'est pas Jésus. Son souci, ce n'est pas Dieu. Son souci, c'est l'homme qui fait des miracles. Donc il va chercher à aller là où l'homme semble être plus fort que celui qui vient de quitter. Il ne cherche pas Jésus. Il ne cherche pas Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent leur vie chrétienne de cette manière-là. Ils ne sont plus basés sur le modèle qui est Jésus-Christ. Ils ne regardent plus la façon dont le Seigneur a servi le Seigneur. Parce qu'on lui a dit, tu seras la tête et non la queue. Parce qu'on lui a dit, tu es un enfant de roi. Tu ne peux pas galérer. Tu ne peux pas être malade. Alors il s'attache à ces paroles-là et toute la recherche dans sa vie, ce n'est plus Jésus mais la richesse. Parce qu'on témoigne de Dieu en fonction de l'argent qu'on a. Plus tu as de l'argent, plus Dieu est d'accord avec toi. Plus tu es riche, plus tu as la puissance en toi. Donc aujourd'hui, c'est le regard que les gens ont de l'Église. Mais ce regard-là, ce n'est pas ça que le Seigneur est venu nous prêcher. Ce n'est pas ça qu'il est venu annoncer. Quand des personnes ont dit « Seigneur, je veux te suivre », il leur a dit « Tu es sûr ?» en quelque sorte. Ça, c'est moi qui dis. Il a dit, même les renards savent où dormir. Même les renards. Mais moi, je n'ai pas un lieu où poser ma tête. Ça, c'est le Jésus que nous avons choisi aussi. Ce n'est pas que le Jésus qui guérit les malades et qui ressuscite les morts. C'est aussi le Jésus qui était simple comme un homme. Simple comme tout le monde. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà le serviteur qui a été agréable à Dieu. On n'a fait aucun cas de lui. Il n'avait rien pour plaire, rien pour attirer les regards. Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre avec une apparence particulière, à frapper les regards des gens. Il est venu comme tout homme, normal. Il est même né dans une étable bien-aimée. Il est né là où il y avait des animaux. Donc dès sa naissance déjà, on a vu l'humilité, on a vu la modestie de celui qui est le serviteur de Dieu et qui est Dieu même. Mais il n'avait rien pour attirer les regards. Bien-aimé, pourquoi vouloir faire les choses pour briller? Pourquoi penser, bien-aimé, que c'est parce qu'il y aura des miracles que les gens se convertiront? Loin de là. Il y a des villes où le Seigneur est passé. La Bible nous dit qu'il n'a fait aucun miracle parce que l'incrédulité était là. C'est-à-dire que s'il avait fait le miracle, ça n'allait rien produire de bon. Ça allait tout simplement amuser les gens. Or, le but du Seigneur, ce n'était pas d'amuser. Ce n'était pas de briller pour briller, mais c'était de sauver les âmes. Voilà le serviteur à qui nous devons nous identifier. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais si les gens ne font aucun cas de toi, Où est le problème, bien-aimé? Ton Seigneur aussi, on n'a fait aucun cas de lui. On l'a méprisé. On l'a méprisé. Tu refuses d'aller quelque part parce que tu sais qu'on va te déconsidérer, parce que tu sais qu'on ne tiendra pas compte de toi. Tu fuis les rassemblements de famille parce que, bon, comme tu es chrétien, tu essaies un peu de passer entre les mailles du filet. Il ne faut pas trop s'afficher parce que tu ne peux plus t'afficher comme autrefois dans le monde. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être des imitateurs de Christ. Il n'avait rien pour attirer les regards, mépriser des hommes. Pourquoi faire tout un problème? Pourquoi souffrir pendant des heures et des heures, des semaines et des mois? Parce que les gens de ta famille t'ont rejeté à cause de ta foi. Mais lui, il a été rejeté parmi son peuple. Il est venu pour faire du bien. On n'a fait aucun cas de lui. Quand on dit faire aucun cas, c'est comme si on l'a ignoré. On a fait comme si on ne le voyait pas. Tu vois, tu es dans une pièce, tu rentres et il y a des gens que tu connais et personne ne se soucie que tu es là. Tu dis bonjour, on ne te répond pas. Mais ça fait mal. Tu te dis, mais oh, je dis bonjour, personne ne me répond. Mais Jésus-Christ, on n'a fait aucun cas de lui. C'est-à-dire, on n'a pas tenu compte de sa présence. On a fait comme s'il n'existait pas. Son évangile, ça rentrait là, ça sortait là. On a fait comme s'il n'existait pas. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur terre, on l'a totalement rejeté. Mais c'est ce serviteur-là que Dieu a élevé. C'est ce serviteur-là à qui le Seigneur a pris plaisir, avec lequel le Seigneur a pris plaisir. Le Fils bien-aimé en qui il avait placé toute son affection. Homme de douleur et habitué à la souffrance. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ça la réalité. Tu penses que parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu ne souffriras plus? Tu as choisi de venir au Seigneur parce qu'on t'a dit que tu auras la guérison. On t'a dit que tu auras le mariage. On t'a dit que tu auras des enfants. Mais ça fait des années que tu attends, il n'y a toujours rien. Les épreuves sont toujours là. Et tu te poses la question, est-ce que je suis dans la vérité ou pas? La Bible nous dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait de mal? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il avait frappé qui? Il avait volé qui? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il n'avait rien fait de mal. Mais la Bible nous dit, habitué à la souffrance, homme de douleur. Et c'est à ce serviteur-là que nous devons nous identifier. Cela doit être vécu en nous, bien-aimés. Nous cherchons les miracles, nous cherchons la prédication. Mais si nous passons à côté de ça, c'est que nous sommes passés à côté de notre vie chrétienne, tout simplement. Nous sommes passés à côté du plan de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous devons nous identifier. Et lorsque nous aurons compris cela, on va même arrêter de se comparer aux autres. Arrêter de croire que Dieu aime l'autre plus que moi, que l'autre est plus béni que moi, que l'autre, il a prié, Dieu l'a entendu avant moi. Bien aimé, non. Le Seigneur n'avait rien fait de mal, mais il souffrait. Habitué à la souffrance, homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Il y a des épreuves que nous vivons. Et il y a certaines personnes qui regardent de l'extérieur. Ah, il est malade. Ah, Dieu l'a frappé. Voilà. Ah, il a eu un accident. Oh là là, certainement il doit être dans un grand péché. Ah, il a eu ça. Ah, mais oui, mais Dieu n'est plus avec lui. De toutes les façons, son église va bientôt fermer. Donc les gens sont là à l'affût. Et ils considèrent que tout ce qui nous arrive, c'est un châtiment de Dieu. Mais la même question, je nous la pose. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait de mal pour être frappé de Dieu? Et la Bible dit clairement, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc on a considéré que ce que Jésus-Christ souffrait était l'œuvre de Dieu parce qu'il avait un péché quelque part. Les gens étaient sûrs que Jésus-Christ était dans l'erreur. Alors toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, ils ont attribué ça à un châtiment de Dieu. Alors bien-aimé, même si on se moque de toi, parce que tu es malade, alors que ton Dieu est vivant, mais Jésus-Christ aussi n'avait rien fait de mal. Les gens vont dire que tu as ceci, que tu as fait cela, mais toi, tu connais la réalité. La réalité, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Si c'est le péché qui t'a amené dans les problèmes, tu le sais aussi. Mais si tu sais que tu n'as rien à te reprocher vis-à-vis du Seigneur, lorsque tu te regardes, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça veut dire que tu sais au fond de toi que tu as fait l'effort pour être en règle avec Dieu. Alors même ce que les hommes vont appeler comme malheur, comme que ta vie est misérable, mais toi tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Alors accepte que les gens considèrent que c'est un châtiment de Dieu. Puisqu'on l'a accepté, le Seigneur l'a accepté, on a fait la même chose avec ton Seigneur. Alors, puisque tu veux t'identifier à Jésus, accepte que ce que le Seigneur a vécu, tu le vives aussi. C'est ça qui est important. C'est que lorsque tu regardes ta vie, on peut t'accuser de toutes sortes de choses. Mais lorsque tu regardes l'Évangile, tu te dis, je suis dedans. Voilà, les épreuves que je vis, c'est ça qui a été annoncé. Je l'accepte. Mon maître a été traité de telle manière, et comme la Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a des combats. Le combat que le Seigneur était venu vivre n'était pas le sien, était le nôtre. C'est pour nous qu'il est venu combattre. Parce que lui, il était tranquillement au ciel. Il était en paix. Mais il avait le souci pour nous. Et il est venu combattre pour nous. Et ce combat qu'il est venu mener, lui a attiré aussi, en quelque sorte, la malédiction qui devait tomber sur nous. Alors, il arrive quelquefois que nous soyons nés dans des familles très compliquées. Et lorsque nous prenons la décision de fléchir le genou, de prier pour le salut de notre famille, qu'on s'attire aussi des foudres et des combats de la part du diable. Et le Seigneur permet cela. Pendant que tu es en train de prier, de jeûner pour ta famille, ils sont en boîte de nuit, fête de famille, avec la musique, avec l'alcool. Pendant que toi tu souffres pour eux, eux semblent vivre, ils semblent s'amuser. Pendant que tu vis les combats qui sont liés à leur péché, qui sont liés à leur vie, parce que tu as pris le problème à bras le corps et pour le présenter devant Dieu. Bien-aimé, accepte ça. Ne cherche pas à fuir en te disant non, je vais me consacrer sur moi. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Jésus-Christ est venu vivre pour les autres. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour les autres. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de mourir pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est ne plus pour vivre pour nous, mais de vivre pour les autres. C'est de cette manière-là que nous devons imiter le Seigneur et accepter que certains combats que nous vivons à cause de la famille, nous le vivons pour la délivrance de notre famille. Il faut l'accepter. Ne cherchons pas à fuir et de dire « Ah, je ne veux plus prier ». Il y a des gens qui ont peur de prier pour leur famille, qui ont peur de prier tellement compliqué, tellement des problèmes de sorcellerie, qui disent « Non, si je prie, les problèmes vont me retomber dessus ». Mais si tu ne pries pas, alors finalement, à quoi ça sert? Que Dieu te donne l'onction. Si tu ne pries pas, à quoi ça sert d'être devenu enfant de Dieu? Le Seigneur est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Si Dieu t'a sauvé le premier dans ta famille, c'est pour que les autres aussi soient sauvés. Donc tu es cet instrument-là que le Seigneur veut utiliser. Il faut prendre tes responsabilités à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Humainement parlant, c'est impossible de vivre ça. Quand le Seigneur te dit « Aime tes ennemis », prie même pour ceux qui te persécutent. Si tu regardes le problème comme un homme, tu vas déchirer le contrat pour dire non, là, être chrétien, c'est trop difficile. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit. Et encore une fois de plus, j'ai entendu dernièrement où des gens, lors d'une retraite, leur pasteur leur dit, nous allons maintenant prier pour que Dieu punisse nos ennemis pour qu'ils meurent. Voilà. Et les gens se mettent à l'intercession pour prier pour que les ennemis soient frappés. Il y a certains qui ont mis sur leur CD, parce que comme c'est la mode du piratage, forcément ceux qui veulent se faire de la musique, de l'argent avec la musique chrétienne, ils se font moins d'argent parce que les gens ne font que copier. Alors sur leur CD, ils ont mis une prière que vos enfants soient maudits, que vos descendants souffrent. C'est une prière qu'ils ont reprise dans les psaumes et ils ont mis ça à tous ceux qui piratent. Alors, lorsque nous sommes en face de ces réalités-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme un agneau, on l'a frappé, on l'a opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas cherché à faire sa propre justice, à vouloir maudire les autres. Il a laissé ça à Dieu. C'est ce que David avait compris. Alors que Saül voulait le tuer, David était en position de se venger. Il a dit, je ne vais pas porter la main sur toi. Ça, c'est entre toi et Dieu. Moi, ce n'est pas à moi de te juger, mais c'est un problème entre toi et Dieu. C'est ça que David va dire parce qu'il a compris que non, la méchanceté, ce n'est pas pour celui qui se réclame être de Dieu. La méchanceté, c'est pour les méchants. Et voilà qu'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas se taire. Ils ne veulent pas être traités injustement. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6. Il dit, pourquoi ne pas vous laisser dépouiller? Pourquoi ne pas aussi accepter de vivre des injustices? Pourquoi vouloir toujours être justifié? Pourquoi vouloir toujours être en paix, être dans la position du plus fort? Pourquoi ne pas aussi accepter d'être piétiné? Pourquoi ne pas accepter d'être comme un paillasson? Les gens vont te marcher dessus. Jésus-Christ, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Quel modèle nous voulons suivre? Quel modèle nous voulons suivre, bien-aimés? Ce que nous voyons sur Internet, ce que nous voyons à la télévision, nous avons là le modèle par excellence, le modèle parfait. Il n'a pas ouvert la bouche. Imitons le Seigneur. Tu peux prêcher la parole, tu peux bâtir d'église autant que tu veux. Mais si Jésus-Christ n'est pas identifié en toi, sache que tu seras compté parmi tous ceux qui diront, « Seigneur, mais j'avais bâti des églises. » Dieu dira, « Je ne t'ai jamais connu. » Je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur, ce qu'il veut voir, c'est Jésus-Christ à travers nous. C'est ça qu'il veut voir. La prédication, même si ce n'est pas par toi, Dieu sauvera des personnes par d'autres personnes. Il utilisera d'autres personnes pour le salut de l'humanité. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu ailles prêcher, c'est que tu ressuscites les morts, que tu purifies les lépreux, mais que tu le fasses avec l'identité de Jésus-Christ devant. De façon à ce que lorsque l'œuvre est faite, que les gens ne voient pas un simple homme, mais qu'ils voient là véritablement le serviteur de Christ. Afin que la gloire revienne à Jésus-Christ et que la gloire ne revienne pas à un homme. Il faut que Jésus-Christ soit mis devant, afin que lui seul soit élevé et que la gloire ne te revienne pas. Parce que tu ne mérites aucune gloire, pas plus que je n'en mérite, bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ qui mérite cette gloire-là. Nous étions loin de Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons tous reconnu que nous avons échoué. Notre vie était un échec, même si tu avais tous les diplômes, même si tu étais fort, en bonne santé, une bonne réputation. Si tu es venu à Jésus, c'est parce que tu as compris que tout cela était zéro. Ça ne valait rien, ça n'avait aucune valeur. Alors, renonce à tout ça. Arrête de te glorifier parce que tu es intelligent, parce que tu as des diplômes. Ça ne vaut rien devant le Seigneur. Ça ne vaut rien, bien-aimé. Ça ne vaut rien. Il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi, qui ont passé des années en théologie, bien-aimé, mais qui sont homosexuels aujourd'hui. Donc, ça ne mène rien. Ce n'est pas le diplôme qui fait de nous des serviteurs de Dieu. C'est le Seigneur dans sa souveraineté qui nous utilise. Nous prenons Galates, chapitre 5, la nature de Jésus qui est résumée dans ce passage-là. Galates 5, le verset 22, il est écrit. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Mais le fruit de l'esprit, mais la nature de Dieu. Voilà ce que nous devons retrouver dans ceux qui disent être du Seigneur. Ce n'est pas que les fruits qui sont énoncés là, le fruit et les vertus qui sont énoncées sont dissociés. C'est un tout. C'est-à-dire que dans le Christ, dans le Seigneur, il y a tout ça. Il n'y a pas plus, la bienveillance, la foi, la douceur. Non, c'est tout cet ensemble-là qui fait la nature de Dieu. Et ces choses-là nous sont détaillées pour que nous sachions qu'est-ce que véritablement le Seigneur attend de nous. Mais encore une fois, vivre et laisser la nature de Dieu se manifester en nous, c'est une question de choix. Dans les versets précédents, au verset 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit ». Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est une question de choix d'accepter que l'Esprit de Dieu qui vit en nous règne de façon à ce que la nature de Dieu se manifeste. Bien-aimé, qu'est-ce que ça te ferait? On ne parle pas forcément, je dirais, de perfection. C'est-à-dire où la personne va être irréprochable à 100%. Mais il y a quand même le côté irréprochable dans le sens où la personne fait l'effort de ressembler à Jésus. Alors, est-ce que pour toi, si tu prendrais plaisir, il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal quelquefois à se convertir, qui ont du mal à devenir chrétiens, malgré qu'on leur prêche l'évangile, lorsqu'ils te voient après dans la colère. Ils te disent, mais c'est ça les chrétiens, tu m'as prêché la parole hier, tu t'énerves aujourd'hui. Mais si c'est ça, tu restes avec ton évangile, on est tous pareils finalement. Tu prêches l'évangile aujourd'hui, demain ils t'attrapent dans un mensonge. Il va dire, mais non, mais ça c'est quoi? Donc ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu veux prêcher la parole de Dieu alors que la nature de Jésus-Christ n'est pas encore sortie? Ce n'est pas logique. Le fondement de toute chose, ce qui va donner de la considération à ce que tu vas dire, c'est la nature de Jésus-Christ qui est manifestée. C'est ça qui va donner de la crédibilité. Tu parles de Jésus, non pas simplement parce que tu as entendu, non pas simplement parce que tu l'as lu, mais parce que Jésus-Christ vit en toi. Et ainsi, lorsque tu parles, ta manière de vivre devient maintenant une démonstration concrète de qui est Jésus-Christ. Je donne souvent cet exemple-là. Lorsqu'on était au collège, en lycée, qu'on faisait la chimie, il y avait un moment donné où on était dans le cours théorique. C'est-à-dire, on écrivait les formules, on écrivait, et à un moment donné, on passait dans le laboratoire. Dans tout ce qu'on en venait d'écrire et tout ce qu'on avait vu par écrit, on le prenait maintenant, on manipulait les produits chimiques pour rendre ça concret. Donc, lorsque tu parles de Jésus, c'est quelque chose qui est aussi comme théorique. Mais la réalité va se trouver maintenant dans l'attitude. Tu dois démontrer que tu vis ce que tu as dit. Et là, ta prédication prend un vrai sens. Donc cela nous montre et nous rappelle, bien-aimés, que la base de tout le travail que nous voulons faire pour le Seigneur, la base se trouve dans l'identité de Jésus-Christ en nous. C'est lui qui doit être le fondement. Sinon, tout ce que nous allons faire, bien-aimés, ne va pas produire du fruit. Mais surtout pour nous. Surtout pour nous. Parce qu'on a vu le Seigneur utiliser même des animaux pour prophétiser. La Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses avec un but. Donc, le Seigneur peut même t'utiliser à la prédication. Des gens vont se convertir. Il y a des gens qui se sont convertis véritablement à partir de la prédication des faux serviteurs. Lui, il a cru au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Mais celui qui est dans la fausseté, même qui a dit la vérité, c'est son cas à lui qui est grave. C'est son cas à lui dont le Seigneur parle dans Matthieu 7. Vous allez me dire, Seigneur, Seigneur, mais je vous répondrai que je ne vous connais pas. Donc, à quoi ça sert de gagner le monde? D'avoir travaillé pour le Seigneur, d'avoir fait des kilomètres pour aller chanter. Si à la fin, c'est qu'on te claque la porte au nez, à quoi ça aura servi? Ça n'aura servi à rien. Donc, la chose essentielle, c'est que Jésus-Christ règne en nous. Que Jésus-Christ soit le fondement et la base de toute chose. Et nous clôturons avec Philippiens. Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ avait tous les droits, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il a renoncé à tout ça. Vivre Jésus, c'est aussi imiter le Seigneur dans son sacrifice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès l'instant où nous devenons enfants de Dieu, on ne vit plus pour nous, mais on vit uniquement pour accomplir l'œuvre du Seigneur, pour la mission de Dieu. Or, la mission du Seigneur, c'est celle que le Seigneur a dit. Il est venu pour ceux qui avaient le cœur brisé, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, pour donner la vue aux aveugles. Donc, il est venu pour les autres. Et je le répète, on ne peut pas imiter le Seigneur en dehors de ce qu'il lui-même nous a montré. C'est le modèle par excellence, c'est le modèle parfait. C'est vrai que le Seigneur nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, bien-aimés. Et Dieu nous invite à faire cela. Et je nous invite aussi à obéir à cet ordre-là. Mais pendant que nous allons servir le Seigneur, n'oublions pas l'essentiel. Est-ce que Jésus-Christ est manifesté en nous? Est-ce que Jésus-Christ vit réellement en nous? À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce une fois de plus, Seigneur Dieu de gloire, pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Seigneur, nous savons que par notre propre force, Seigneur de gloire, on ne peut pas faire le bien. Par notre propre force, Seigneur de gloire, on ne peut pas te plaire. Et c'est la raison pour laquelle tu nous as donné ton Esprit Saint, pour faire ta volonté, pour mettre en pratique ta parole, mais surtout, Seigneur de gloire, pour être à l'image de ton Fils unique. Seigneur, et c'est notre prière ce matin. Il nous est arrivé, Seigneur Dieu de gloire, de parler de toi, Seigneur de gloire, et derrière, par notre comportement, de ne pas témoigner de toi. Seigneur, et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons agi ainsi, Seigneur, où nous avons été des pierres d'achoppement pour l'Évangile. Nous te demandons pardon pour cela. Et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides, Seigneur Dieu de gloire, à laisser le Saint-Esprit vivre en nous, afin que la nature de Jésus-Christ soit totalement manifestée, totalement démontrée en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons être des témoignages vivants, que Jésus-Christ vit réellement en nous, que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être ces témoignages-là. Seigneur, aide-nous, car sans toi, nous ne sommes rien. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, combien notre chair résiste, Seigneur de gloire. Regarde combien notre chair, Seigneur de gloire, quelquefois prend le dessus, Seigneur, et donne-nous la force, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous encore de manifester notre volonté de t'appartenir, Seigneur Dieu de gloire, en esprit et en vérité. Nous avons fait le choix de te suivre, Seigneur, quel qu'il en soit, Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a des réalités que nous oublions quelquefois. Seigneur, nous voulons revenir à ce qui est essentiel. Nous avons eu des motivations, Seigneur de gloire, pour aller prêcher ça et là. Nous avons été motivés, Seigneur Dieu de gloire, pour enseigner ta parole, Seigneur de gloire, pour prier, Seigneur, pour intercéder, Seigneur Dieu de gloire. Mais en même temps, Seigneur de gloire, la vie de Jésus n'était pas manifestée en nous. Alors à quoi ça sert, Seigneur, comme tu l'as dit, à quoi ça sert de faire tout ça, si à la fin nous sommes rejetés, Seigneur? À quoi ça sert? Seigneur, rappelle-nous ce qui est essentiel, que la vie de Jésus-Christ coule en nous, qu'elle soit manifestée, Seigneur de gloire, pleinement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi et de la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, viens nous soutenir encore, Seigneur. Viens encore nous conduire dans toute la vérité, Seigneur de gloire. Par ton Esprit Saint, prends le contrôle de nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher comme Jésus, Seigneur, que nous acceptions de faire mourir nos membres par rapport au péché, Seigneur, afin que la vie, par l'Esprit, Seigneur Dieu de gloire, règne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Tu dis que tu ne refuseras pas le Saint-Esprit à celui qui te le demande. Seigneur, ce matin, nous voulons être remplis du Saint-Esprit afin que la vie de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, soit manifestée en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Car tu as dit, Seigneur de gloire, que celui qui croira en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, c'est notre prière ce matin, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive, Seigneur Dieu de gloire. Que des fleuves d'eau vive, Seigneur de gloire, coulent de notre sein, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire, de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur de gloire, merci. Merci, Seigneur de gloire, de déverser sur nous, Seigneur de gloire, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous marchions comme Jésus-Christ a marché, que nous vivions comme Jésus-Christ a vécu, Seigneur Dieu de gloire, sur la terre des vivants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur de gloire, notre secours, Seigneur. Vois combien notre chair, Seigneur Dieu de gloire, nous trompe, Seigneur de gloire, nous détourne de tes voies, Seigneur. Alléluia. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi, Seigneur, car le salut t'appartient.
Le contrôle.
Seigneur, merci pour le don du Saint-Esprit, Seigneur, qui nous enseigne toutes choses, Seigneur Dieu de gloire, et qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, aide-nous, Seigneur de gloire, à accepter la mort, Seigneur de gloire, par rapport à notre vie passée, par rapport à la chair, afin que la vie de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, se manifeste librement en nous. C'est notre prière, Seigneur de gloire, et comme tu le dis, Seigneur de gloire, que tout ce que nous te demandons selon ta volonté, tu nous écoutes, Seigneur. Et si nous savons que tu nous écoutes, nous avons la chose que nous t'avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur de gloire, d'avoir entendu et exaucé nos prières. Sois béni, Seigneur, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voilà.